Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Qui n'a jamais rêvé de partir à l'aventure sur un bateau vers des horizons inconnus comme au temps des grandes découvertes? Braver les éléments, explorer des territoires hostiles, découvrir de nouvelles espèces, repousser les frontières des connaissances par l'exploration, tout ça fait rêver. Et si le temps des caravelles est révolu, celui du Marion Dufresne, du Pourquoi pas, du Thalassa et de l'Atalante ont encore de beaux jours devant eux. Ces bateaux océanographiques embarquent 1800 scientifiques par an et aujourd'hui, le Labo des Savoirs part à l'aventure avec eux. Cette émission est enregistrée à l'occasion de la Fête de la Science 2024. La thématique de cette année, c'est un océan de savoir. Et nous enregistrons cette émission en public, au cœur du campus de Nantes Université, au pôle étudiant. Merci à eux de nous accueillir. Nos deux invités avec nous en plateau sont scientifiques et explorateurs, exploratrices dans l'âme. Je n'en doute pas. Avec nous Agnès Balzer, bonjour.
Bonjour.
Tu es enseignante-chercheuse, professeure de géographie physique à l'Université de Nantes et au CNRS. Tu es également directrice adjointe de l'Observatoire des sciences de l'univers de Nantes Atlantique et tu as mené des recherches en Écosse, en Arctique, dans le Morbihan et dans l'Amazone dernièrement, c'est ça?
C'est exactement ça.
À tes côtés, Simon Rondeau, aka Melvac sur YouTube. Bonjour Simon.
Bonjour.
Toi, tu as une formation d'écologue marin à la Sorbonne et tu es passé du côté caméra de la science puisque tu es désormais vulgarisateur scientifique et vidéaste. Et tu as pu suivre deux missions océanographiques à bord du Pourquoi pas et également sur le Thalassa, c'est ça?
Tout à fait.
Et nous entendrons également Aurore, qui est chroniqueuse à Labo des Savoirs. Aurore, tu nous parleras d'un explorateur du 19e siècle qui a des idées très modernes, mais on ne le connaît pas tant que ça.
Ah, bah, il est connu dans son domaine.
Et Lila s'est replongée dans les classiques de science-fiction où les personnages partent à la découverte de mondes terrifiants et inconnus. C'est parti, vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs.
Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font? Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science, de toutes les sciences? Nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du labo et rejoins-nous.
Alors une expédition scientifique, ce n'est pas un voyage qui s'improvise, déjà parce qu'il peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ensuite parce qu'il implique beaucoup de personnes, de matériel, de temps et d'argent. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on se donne toute cette peine? Et bien déjà parce qu'il y a des sujets de recherche qu'on ne pourra jamais tester en laboratoire. Agnès, toi tu es spécialiste dans l'étude des sédiments et des dépôts marins, si je ne me trompe pas. Alors déjà, qu'est-ce qu'un sédiment marin et pourquoi est-ce que tu l'étudies? Quelle information on peut tirer de tout ça?
Alors, les sédiments marins, c'est hyper intéressant parce que c'est au fond de l'eau. Et ce qui se passe, les sédiments, c'est des petits morceaux donc qui peuvent être détritiques, c'est-à-dire qui viennent de la destruction des montagnes, des continents, et etc. Ou alors des petits coquillages ou des organismes qui sont morts et qui vont faire plein de petites particules qui vont s'entasser au fond de la mer. Et l'intérêt, c'est que comme elles s'entassent petit à petit, tranquillement, très lentement, on va pouvoir faire comme ça des espèces de niveaux, de couches de sédiments qui vont nous raconter l'environnement et donc le climat qu'il y avait au moment du dépôt. Et si tu fais, parce que nous on est des spécialistes de faire des grosses carottes dans les sédiments, donc tu envoies un grand tube et plouf, tu récupères le plus possible de sédiments. Si tu prends par exemple 4 mètres ou 10 mètres de sédiments, tu vas pouvoir remonter dans le temps. Les sédiments au-dessus, c'est l'actuel, et les sédiments tout au fond, c'est le passé. Et tu peux remonter comme ça des milliers ou des millions d'années suivant où tu es. Et tu vas raconter tous les paléoclimats, les anciens climats, et comment ils se sont succédés. Et du coup, on parle d'archives sédimentaires. Tu lis comme dans un livre, en fait, la succession des différents événements. climat.
Juste avec les dépôts qu'il y a au fond de l'eau, c'est fascinant.
C'est balèze. Hein.
Dans ta thèse, tu parles de marge grasse ou beurrée et de marge maigre. Il va falloir que tu m'aiguilles parce que là, je ne comprends rien.
Et même que la conclusion de ma thèse était les marges maigres restent maigres et les marges grasses restent grasses.
Et ça, c'est une
bonne
conclusion.
3 ans pour avoir ça comme résultat. Tu vois que quand même, on n'est pas...
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les marges, déjà?
Alors, les marges, c'est on a le continent, et ce continent, ils vont se prolonger un peu sous l'eau par le, ce qu'on appelle le plateau continental. Après, on a une grande marche, c'est-à-dire on va descendre de 200 mètres de profondeur d'eau à 3000 mètres de profondeur d'eau. Et cette grande marche, c'est ça qui fait la pente continentale. Et cette pente continentale, si jamais il n'y a pas beaucoup de sédiments dessus, eh ben, elle va continuer à laisser passer tous les autres sédiments par-dessus elle, en fait. Et il n'y aura jamais de sédiments qui vont venir se stocker sur elle. Donc, si elle est maigre, elle reste maigre.
Donc, elle est maigre parce qu'elle elle chute vraiment
elle
dans
chute,
le fond de l'océan.
Il y a plein de canyons, on voit plein d'un, on a de très belles bathymétries, donc on a l'impression que c'est des montagnes, hein, tout simplement, très fissurées, très entaillées par des canyons. Et ça, c'est une marge maigre. Et ben, ça, c'est par exemple chez nous, là, en Bretagne, la marge des entrées de la Manche, c'est des marges maigres. Tout ce qu'on a de notre côté, là, c'est de la marge maigre. Mais si tu vas de l'autre côté, côté canadien, la Nouvelle-Écosse et tout ça, tralala, eux, ils ont eu plein de glaciers qui sont venus jusqu'au bord, souvent, qui ont dégueulé, j'allais dire, plein de sédiments. Et donc, ils ont beurré leur petite marche. Et donc, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus douce comme pente et elle accroche mieux les sédiments. Donc, elle est déjà bien beurrée avec une pente douce et tu en rajoutes encore et ça reste de plus en plus doux. Donc, ta marge grasse reste grasse.
C'est marrant d'utiliser le terme beurré pour une marge, on peut dire une marge sédimentaire?
Ouais.
Ouais.
Ouais. Mais on dit beurré, hein, c'est vraiment, tu vois, le terme scientifique, très scientifique. Donc.
Mais c'est génial parce que c'est très imagé. Et là, tu parles de marches beurrées par les glaciers. Est-ce que ça veut dire que du coup, les glaciers laissent une trace reconnaissable, une preuve, ou quand on voit cette trace-là, on sait que c'est eux?
On sait que c'est eux. Et en fait, les glaciers, c'est extra parce que c'est des énormes rabots par rapport au continent. Et donc, ils vont raboter ton continent et ils vont tout emmener avec eux et ils vont broyer plein de roches. Et ça va te faire ou des énormes blocs, ou des moyens blocs, ou des petits blocs, et de la très très, l'argile très très fine. On appelle ça la farine glaciaire. Et ça, si tu mélanges de la farine glaciaire plus des moyens grains, des petits grains, des gros grains, tu fais du ciment. En vrai, naturel. Et ça, il va venir se déposer justement sur ton escalier, enfin sur ta marge là, et ben il va beurrer, ça va prendre tous les endroits, et ça va être hyper stable. Et donc on a une cohésion en fait qui est exceptionnelle. Il n'y a que les glaciers qui font ça.
Et alors, pour que tu puisses étudier toutes ces marges et ce ciment naturel, j'imagine que tu ne peux pas rester dans un laboratoire. Quand on a échangé en amont cette émission pour préparer un petit peu justement ce qu'on allait se raconter, tu m'as parlé de plusieurs endroits, à commencer, alors notamment l'Écosse. Qu'est-ce que tu allais étudier en Écosse?
Alors, en Écosse, j'allais regarder justement les sédiments. En fait, l'idée, c'est que l'Écosse, c'est un endroit des gens qui est bien plus au nord hein, que la France. Donc, les glaciers ont complètement recouvert l'Écosse jusqu'il y a... allez, je vous le fais à 15 000 ans pour vous. Et donc, vraiment, les glaciers, ils ont tout écrabouillé pendant un bout de temps. Et puis après, ils se sont retirés doucement, donc réchauffement pour tout le monde. Et là, ça veut dire que tous les sédiments, ils sont encore bien piégés. On a des lochs en Écosse.
Des espèces de lacs protégés?
Des lacs, ouais, bien fermés, enfin assez fermés, toujours en connexion avec la mer. Mais il y a souvent un seuil, parce que la géologie fait que c'est comme ça là-bas. Et donc, ça veut dire que tous les sédiments, ils sont bien rangés comme il faut dans leur loch, les uns par-dessus les autres. Et les satanées tempêtes là, qui viennent de l'ouest, elles peuvent pas rentrer. En fait, elles butent sur ce seuil. Donc, ça devient une petite vague moyenne quand ça rentre. Donc, ça va pas te virer tous tes sédiments que tu as au fond.
Ça fait un environnement préservé, du coup, j'imagine.
Exactement. Et du coup, tu peux lire toutes tes pages de ton livre sans t'énerver. Et personne n'a enlevé des pages, si tu veux. Et du coup, tu lis bien. Tu lis vraiment très bien ce qui s'est passé depuis le dernier maximum glaciaire, en fait.
Mais en Écosse, il n'y a pas de glacier.
Il y en avait.
Mais du coup, est-ce qu'il y a moyen d'étudier les traces laissées par des glaciers à un endroit où il y a des glaciers?
Ah bah oui. Et du coup, c'est ce qu'on fait là, justement, au Spitzberg. Là, on est en train de regarder des vrais glaciers encore vivants, mais qui sont en train de...
Oui, hélas. On va en parler en deuxième partie cette diminution tragique.
C'est ça, oui, qui est hyper intéressant. C'est qu'on voit comment c'était enfin la trace qu'ont laissé les glaciers, et on voit maintenant à quoi ça ressemble les glaciers encore, puisqu'ils sont encore là. Par contre, on voit bien comment ça fait quand tu déglaces, puisque c'est ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, on fait des analogues, hein, c'est ce qu'on fait en géologie. Tu regardes quelque chose actuel et tu le compares à ce que tu as enregistré dans le passé. Est-ce que tu retrouves les mêmes lits de sédiments? Est-ce qu'ils te racontent la même chose? Et ça, ça nous permet aussi de mettre le temps, le facteur temps. On a toujours du mal avec la chronologie, là, dans les pages du livre sédimentaire. Des fois, c'est un peu... On est dans les milliers d'années, millions, tu vois, on ne sait pas bien. Tandis que là, on est capable de faire un cadre chronologique qui est beaucoup plus intéressant.
Donc, c'est pour ça que tu te rends maintenant régulièrement, alors j'espère bien le prononcer, au Svalbard.
Yes.
Qui est donc un archipel de plusieurs îles en Arctique, à l'est du Groenland. Tu y es allé une première fois en 2009, et maintenant tu y vas tous les ans, tous les deux ans.
Tous les deux ans, là, il y a une période, j'y suis allée quasiment toutes les années, en 2021. 20, on a été scotché par le Covid, comme tout le monde. Donc, 21, on a fait deux missions, 22 et 23. Et on espère y retourner, là, en 2025, en fait. Et là, ça va très vite, justement. On est capable de voir année après année, à l'œil nu, hein, t'as pas besoin de regarder dans ton microscope ni rien, tu vois vraiment les changements, la vitesse à laquelle ça va. Et ce que je te racontais l'autre fois, c'est que nous on voit dans le paysage, on voit les glaciers qui sont en train de s'affiner, de maigrir pour le coup, eux, et de finir de fondre. Ça fait plein de changements à l'intérieur du fjord, puisque évidemment du coup on change d'environnement, d'écosystème et tout ça. Et ce qui est fascinant, c'est que quand tu vas au Spitzberg, tu arrives à la capitale, c'est Longyearbyen. Et donc là, c'est la capitale, il y a 2500 habitants qui vivent à l'année tout le temps. Et tu vois le village de Longyearbyen, enfin la ville de Longyearbyen, changer année après année. Moi, quand j'ai commencé en 2009, c'était encore vraiment, ça ressemblait à une espèce de village où tu avais des miniers, puisque c'était des anciens mineurs qui venaient pour le charbon et des choses comme ça. Ça s'est tout arrêté, c'était déjà arrêté quand on est arrivé, mais ça restait encore assez... on va dire abrupte, un petit peu rustre. Il y avait un petit prix unique, enfin, c'était pas un prix unique, hein, je sais plus comment ça s'appelle.
Et autrement, un seul magasin, commerce, ouais.
Le magasin minuscule, mais tout le monde était bien content. Et là maintenant, il y a une espèce d'énorme super continent, hyper pour acheter. Donc en fait, il y a tout un développement touristique impressionnant. Alors que c'est le moment où tu dis non, il faut surtout arrêter tout ça, et ben blâme. Et depuis 2017, c'est vraiment un essor. J'allais dire, tu vois, catastrophique vu de notre point de vue. Hein. Évidemment, pour les Norvégiens, ils sont très contents parce qu'ils ont plein de monde. Mais, et la ville, elle change. Année après année, c'est impressionnant.
Donc, les glaciers fondent et les supérettes poussent à la place.
Exactement. Je ne sais pas si on va y gagner. Hein.
Simon, tu as fait une grimace en entendant cette phrase, je comprends. Toi, tu n'es pas monté jusqu'au Svalbard, mais tu as bien suivi des missions océanographiques, en tant que vidéaste. Alors, c'était quoi les thèmes de recherche? Toi, c'était pas trop les glaciers, ça a bossé
non. Mais ça regrouperait la première que j'ai fait, c'était aussi de la sédimentologie. C'était en mer Noire, c'était avec l'Ifremer sur une campagne qui s'appelait Gaz 2 et qui s'intéressait en fait au dégazage des fonds de la mer Noire, puisqu'il y a beaucoup là-bas ce qu'on appelle des hydrates de méthane. En fait, c'est du méthane, c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant qui, sous certaines conditions de température et de pression, peut se transformer en glace. Et actuellement, la mer Noire est l'un des sites autour du monde où cette glace en fait est en train de fondre, et du coup quand on regarde les fonds de la mer Noire, on a vraiment des petits chapelets de bulles, des petits geysers qui remontent. Et toute la question de cette campagne, c'était est-ce que ces chapelets de bulles remontent jusqu'à la surface, passent à l'atmosphère et donc contribuent aussi à accélérer le changement climatique. Donc ça, c'est la première sur laquelle j'ai embarqué. Et là, il y a un an, j'étais en Atlantique Nord sur une campagne, cette fois-ci du CNRS, qui s'appelait Apéro, donc déjà un super nom de campagne. Et cette fois-ci, on étudiait en fait la pompe à carbone océanique, c'est-à-dire tous les systèmes qui font comment l'océan va capter en fait le CO2 dans l'atmosphère. Et il y a déjà pas mal d'études qui ont été faites sur ce système de captation. Et par contre, une fois que c'est dans l'eau, comment ça va être stocké, enfoui dans les profondeurs, ça en fait on ne sait pas encore exactement comment ça fonctionne. Et en fait, cette campagne en Atlantique Nord c'était vraiment ça en fait l'objectif d'étude. Et c'était une campagne assez folle parce que il y avait déjà deux bateaux. Il y avait le pourquoi pas, la Thalassa, pendant 40 jours, c'était assez incroyable. Et surtout à bord, il y avait une multidisciplinarité scientifique, c'est-à-dire qu'on étudiait vraiment des gros organismes jusqu'aux virus marins pour essayer de comprendre justement toute cette pompe à carbone océanique. Donc ouais, c'était vraiment une aventure incroyable. Et pour un vulgarisateur comme moi, c'était vraiment ce que j'aime appeler un parc d'attractions, hein, parce que je me baladais partout. Il y avait énormément d'expériences de scientifiques dans des domaines extrêmement diversifiés. Et du coup, c'était vraiment super de pouvoir prendre des images, les rencontrer, comprendre ce qu'ils font.
On voit vraiment que tous les sujets de recherche dont on a parlé sont indissociables d'une présence sur le terrain et indissociables aussi du climat. Ça, bien sûr, on va y revenir. Concrètement, une expédition scientifique, puisque c'est le thème, on s'y prépare comment ? Est-ce que mentalement, il y a une préparation ? Est-ce qu'il faut, à part le matériel, essayer d'y penser quelques semaines, voire quelques mois en avance ? Agnès, c'est
alors,
plus ouais, quelques
je
semaines.
Rigole, mais je rigole jaune, hein, parce qu'une campagne à la mer, c'est hyper compliqué à préparer. Alors d'abord, la première épreuve, c'est d'arriver à poser ton projet, ton programme, et il faut qu'il soit accepté.
Ah oui.
Et ça, c'est plutôt 2 ans à l'avance pour les campagnes hauturières. Donc, quand tu vas vraiment, tu vas dans des grandes campagnes comme tu as faites. Et il faut au moins 1 an à l'avance quand c'est les campagnes côtières. Tu vois. Donc déjà, ça veut dire que dans 2 ans, on va faire ça. Donc là, il faut que tu aies l'argent, il faut que tu aies l'assentiment de tes pairs qui disent oui, c'est vraiment une mission importante, on la met comme ça, claque, l'argent, parce que évidemment, un bateau à la mer, ça coûte cher. Note, un bateau à quai, ça coûte presque aussi cher. Mais bon, voilà, c'est pas pareil. Et du coup, après, normalement, si tout est normal, soit tu vas voir tout le matos, parce que là aussi, il faut que tu envoies ton matos, c'est plutôt 6 mois à l'avance,
d'accord,
qu'il aille dans des super gros containers qui vont aller d'un pays à un autre, et tu espères qu'il va être à peu près au bon moment, au bon endroit.
Ah souvent, oui, le matos arrivent... part avant, a priori.
Ah oui, tu les envoies en
avance.
Oui,
pas en même temps
que les
humains.
Parce que tu as plein de douanes et de trucs terribles et compagnie. En général, le jeu, quand tu vas dans des pays, genre par exemple l'Afrique, l'Amazonie, on te garde un peu plus ton truc pour t'obliger à payer un peu plus vite, plus cher, vite, parce que toi, t'as tellement besoin de ton truc, voilà. Donc, il y a des gens qui sont exprès pour faire ces choses-là. Avec Ifremer, ça se passe bien parce qu'ils ont des gens sur place qui sont là pour négocier que quand tous les gens de la mission arrivent, tu vas pouvoir vraiment embarquer et partir. Je t'assure que c'est pas souvent le cas. Là, on vient encore de faire une mission là. Et après, normalement, quand tout est bien, t'as tout ton matos, t'as rien oublié, t'as les gens, le bateau part, normalement, il fait mauvais. Inversement, si tu n'as pas tout ton matos et tous les gens, là, il va faire super beau. C'est hyper compliqué, on ne s'aperçoit pas.
C'est la loi de
Murphy.
D'avoir
une mission où tu as tout qui marche en même temps. Et alors, dès qu'il y a 2-3 jours où tout marche en même temps, c'est merveilleux. Parce que ça veut dire que tu as tout gagné déjà. Parce que souvent, les missions, elles sont un peu plus longues que nécessaire. Parce que tu tiens compte, justement, de ce pied de pilote qui fait que où il y a le matos qui ne marche pas, où tu as la tempête et là, tu ne peux pas y aller, et ainsi de suite. Et c'est hyper compliqué. Et je peux dire, quand tu pars et qu'on est tous à bord et qu'il y a à peu près le matos, déjà, tu dis waouh, il y a la moitié de la mission, elle est presque faite.
Les planètes sont alignées.
T'as réussi à faire ça. Exactement. Et là, juste pour souligner, parce que là, on a les sciences, ils ont beaucoup de mal en ce moment. Il y a eu ce satané Covid qui a bloqué plein de missions, qui a annulé plein de missions. Mais les gens qui ont de l'argent pour faire ces missions, donc ils les ont reportées, tu vois, en 2020. Et donc, ça reporte, ça fait, on appelle ça le bourrelet de missions. C'est-à-dire, t'as plein de missions qui vont se faire, qui auraient dû être déjà faites. Et donc, en fait, tu peux plus poser des nouvelles missions parce qu'on va déjà essayer d'écouler tout ce qui s'est passé avant.
Ah, donc là, les missions qui vont avoir lieu sont celles qui sont prévues d'avant le Covid.
Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y en a quelques-unes qui étaient prévues cette année, qui sont reculées de 2 ans, en fait, le temps de découler tous. Donc tu vois, c'est pas si facile. Et il y a des gens, ils sont plus là, ils sont plus en thèse. Il y a vraiment tout un timing, hein, justement, de l'alignement des planètes qui est pas du tout évident sur une mission. Et c'est pour ça, quand on est dessus, on est vraiment.
On en profite. Et d'un point de vue individuel, toi, Simon, tu as rejoint une équipe de scientifiques. Est-ce qu'avant d'arriver sur le bateau, tu t'es dit, bon, il faut que j'oublie pas ma brosse à dents. Enfin, est-ce qu'il y avait des choses, une petite pression peut-être? Est-ce que tu savais à quoi t'attendre? Puisque t'es parti 8 semaines en plus.
Alors, ouais, moi, j'ai eu vraiment 2 expériences le jour et la nuit. Puisque la première expédition, donc en mer Noire, qui a duré 12 jours, j'ai été prévenu 1 mois et demi en avance que je partais. Donc j'étais en vacances, ça faisait 1 an que j'avais fini mes études, partir en mission océanographique c'était un de mes rêves, je sais pas si j'allais pouvoir un jour le réaliser, et là je me réveille un matin, j'ai un message de l'Ifremer dans mes DM sur Twitter qui me dit « Est-ce que tu veux pas nous rejoindre en mer Noire ?» Et du coup j'ai dû prendre une décision extrêmement rapide, du coup la préparation en amont a été extrêmement, on va dire efficace.
Efficace est un bon terme.
Efficace, un bon terme, voilà. Et donc, Ça a été très rapide. Et puis aussi, ce qui était différent par rapport à la deuxième, c'est la nature de ma position à bord. Puisque là, j'étais vraiment invité en tant que vidéaste indépendant, mais j'étais pas payé directement par Ifremer. Il y avait déjà une équipe de communication sur place. Donc j'étais vraiment là en supplément pour moi faire mon travail et à la fin faire un reportage. La deuxième mission avec le CNRS, elle a été différente déjà parce que effectivement, on est passé de 12 jours à 40 jours. Donc c'est pas du tout la même organisation, le matériel par exemple. Moi je suis embarqué avec quasiment tout en double, hein, du drone à l'ordinateur en passant par les caméras. Et surtout, là en fait on a travaillé ensemble directement avec l'équipe d'Apéro quasiment sur 6 mois en fait avant d'embarquer. Puisque ce qui m'a beaucoup plu et avec eux, c'est qu'en fait on a pu ensemble travailler à court, à moyen, à long terme. C'est-à-dire qu'on a vraiment développé ensemble un plan de communication en se disant, moi j'ai ces compétences-là d'illustrateur, de vidéaste, d'auteur. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant la campagne? Qu'est-ce qu'on peut faire après la campagne? Qu'est-ce qu'on peut faire à très long terme après la campagne? Et du coup, on a vraiment co-construit vraiment tout un plan de communication réfléchi à, par exemple, on a fait une petite série de vidéos journal de bord pour raconter la campagne en temps réel. Ça, c'était incroyable. C'est aussi un gros défi, moi, en tant que vidéaste, de écrire, faire les vidéos, uploader les vidéos avec la connexion internet qu'on avait depuis le bateau.
Depuis le bateau.
Non, c'était vraiment une co-construction. Et là, je n'étais pas juste invité pour faire des images avec une équipe de com à côté qui faisait vraiment la banque d'images de la campagne. J'étais vraiment le communicant de bord. Donc j'avais à la fois, le jour je filmais, la nuit je montais globalement des vidéos. Et du coup, non, c'était vraiment une préparation complètement différente. Et une fois sur place, pareil, c'était 40 jours. C'est des journées de 10-12 heures, un sommeil quasiment inexistant certaines journées. Parce que, en fait, sur un bateau, mais ça, j'imagine Ganis pourra nous en parler, il y a un système de quart. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des équipes qui se relaient à peu près toutes les 4 heures pour histoire que les gens ne tombent pas de fatigue en cours de route.
Et qu'il y ait toujours des gens éveillés.
Sauf que du coup, moi, j'étais tout seul. Donc du coup, moi, il y avait personne pour me relayer. Et du coup, l'organisation durant la campagne pour être là pour faire des images à chaque fois, des trucs, enfin, filmer les mises à l'eau des instruments, c'était un vrai puzzle, quoi. Il y a eu des jours, je m'endormais à 22 heures, je me réveillais à 3 heures, à 8 heures. Enfin, c'était très morcelé. C'était un gros taf, c'était une belle aventure.
Oui, j'imagine que Agnès, tu disais tout à l'heure, quand les planètes s'alignent, c'est super, on bouge pas et on en profite. Du coup, est-ce qu'on se sent investi d'une mission quand on est en expédition scientifique? Et est-ce que vraiment, faut pas perdre une seconde, ouais. Il faut en profiter sur place, recueillir les informations, faire les démarches scientifiques ou de communication. Enfin, Agnès, par exemple, est-ce que tu as une to-do list énorme avant d'y aller? Comment tu t'organises?
Non, elle est dans ma tête et tu essayes d'en faire un max. Par contre, quand tu es dedans, tu l'as senti. Hein. Tu es dans une espèce d'effervescence incroyable et tu es tout le temps stimulé. T'es avec tous les collègues, les autres, aussi bien les marins que les collègues, et tu papotes, enfin tu fais plein de choses. T'as pas envie d'en perdre une miette en fait. C'est juste la fatigue, il y a des moments ça te tue un peu, mais si t'arrives à dormir par quart, enfin moi je sais que ça me pose pas de problème, et là tu te régénères, et alors là c'est incroyable parce que c'est du non-stop, et à chaque fois tu te réveilles, tu sais que tu vas avoir une aventure, tu sais pas laquelle encore c'est, mais de toute façon c'est ça. Et t'as pas envie de perdre une miette hein, en général. Après c'est, je te dis le temps, là, c'est sûr que la météo elle peut quand même ralentir pas mal de choses, mais il va se passer d'autres choses, tu vois, s'il fait très mauvais, ça veut dire que tu vas te retrouver à l'intérieur, tu vas commencer à réfléchir, à papoter, et c'est un moment génial parce qu'on est tous à proximité. On est tous sur le même bateau, donc il y a ce côté où t'es quand même obligé de faire attention aux autres, autrement ça se passe assez rapidement mal et on te recadre. Et par contre, les échanges, ils sont purs, tu vois. C'est direct. Tu regardes ça. Oh, c'est quoi ça? Et tu vois, on est à la chasse au trésor tout le temps. Et c'est ça qui te donne une ambiance, c'est vraiment extra. Enfin, ce que tu fais sur un bateau, tu le fais par exemple à terre quand t'es en mission, mais sur le terrain, mais voilà. Il y a cette qualité de la découverte et de l'échange que tu peux pas avoir dans un bureau, c'est pas possible.
Et c'est du collectif. À chaque fois, vous parlez collectif.
Du collectif.
Moi, je sais qu'un truc qui m'avait beaucoup marqué aussi, c'est qu'effectivement, c'est extrêmement intense et éprouvant aussi pour les scientifiques. Mmh. Et c'est vrai que c'est une partie aussi de la recherche et de la science que les gens n'ont pas forcément en tête. Mmh. Moi, je sais que j'avais beaucoup discuté avec des gens à bord qui disaient que quand ils partent en mer, leurs collègues qui restent à terre, ils pensent qu'ils partent en vacances.
Bah oui, c'est classique.
Mais c'est difficile à exprimer à quel point c'est faux quand on voit l'énergie que ça demande. Et tu parlais de tempête. Nous, sur Apéro, on a essuyé 3 tempêtes. Je n'ai vomi qu'une fois. Et en fait, chaque tempête, chaque imprévu, parce qu'il y a les tempêtes, mais il y a plein d'autres choses. En fait, tout est extrêmement ficelé, tout est extrêmement lourd en termes d'organisation pour que tout fonctionne. Et dès qu'il y a un imprévu, bah, les chefs de mission, l'équipe à bord, en fait, doit réinventer en fait tout pour que ça fonctionne. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, les journées en mer, ça coûte cher. Donc, on peut pas juste passer une journée à se dire bon bah là, il y a une tempête, on va juste attendre. Il y a certaines campagnes, ça arrive. Genre par exemple à Apéro, il me semble, il y avait une campagne anglaise juste avant. Ils avaient prévu de rester à un endroit précis. Bah du coup, bah là, il y avait une tempête. Il me semble qu'il y a les deux tiers de la campagne a pas pu se faire parce que le bateau faisait que de bouger. Là, sur Apéro, par exemple, dès qu'il y avait une tempête, bah, avec le commandant, avec les marins, on essayait de changer, d'aller plus au sud, de fuir la tempête, ou en tout cas d'avoir un minimum de houle pour qu'on puisse mettre des choses à l'eau. Donc en fait, c'est une vraie aventure intense. C'est un marathon aussi, hein, parce que comme tu disais, il faut gérer sa fatigue, il faut que tout fonctionne. Et...
On dit que c'est aussi une aventure humaine, c'est-à-dire que du plus petit matelot au bosco, au capitaine et au chef de mission et à n'importe quel thésard ou étudiant avec toi, faut que tout le monde arrive à communiquer et t'as besoin de tout le monde. Il y en a pas un qui est inutile. Et quand tu dois aller voir le capitaine en l'expliquant que bah alors là il faudrait rester encore un peu là parce qu'on n'a pas fini et que alors que tu viens de te trapper déjà, je sais pas moi, 48 heures sur place, tu vois, il faut que chacun arrive à mettre la bonne façon de demander aux autres et c'est vraiment cette mayonnaise humaine, il faut qu'elle prenne. Si ça prend, tu te souviendras toute ta vie de cette mission-là. Des fois, quand ça coinçouille un peu, tu t'en souviens aussi.
Ça fait des bons souvenirs.
Quand t'as besoin de tout le monde, et c'est ça qui est génial. Enfin, tu vois que tout le monde a sa place. En fait.
Une vraie aventure collective.
Ouais.
Et là, je vais donner la parole à Aurore, qui va nous parler d'un seul homme, mais je suis sûre qu'il avait une équipe autour de lui incroyable. Parce que quand on parle d'exploration scientifique, moi, les images qui me viennent, au lieu des images un petit peu modernes dont on est en train de parler, c'est les grands voiliers, les grandes découvertes, etc. Toi, t'as un petit préféré, Aurore, parmi ceux-là, mais on le connaît pas tant. Il s'appelle Alcide d'Orbigny, c'est ça ?
Eh oui, Sophie. Alors, son nom complet, c'est Alcide Charles Victor Marie Dessalines d'Orbigny. Il est né à Couëron, donc pas très loin de Nantes, au tout début des années 1800, la même année que Victor Hugo et 7 ans avant Charles Darwin. Donc pour vous resituer un petit peu l'époque où se déroule notre récit. Tout petit, il était passionné de récits de voyage de ses prédécesseurs et son père, qui était médecin dans la marine et passionné d'histoire naturelle, lui a transmis le goût de l'observation scientifique. Au cours de son adolescence, il s'est pris de passion pour l'étude de minuscules coquilles, connues depuis l'Antiquité mais mal classées dans le groupe des mollusques. Il s'agit des foraminifères, tels qu'il les a par la suite baptisés. Il en a décrit plusieurs centaines de nouvelles espèces, ce qui l'a fait remarquer dans le milieu des naturalistes. Et c'est ce travail qui a attiré l'attention du Muséum d'Histoire Naturelle, qui lui a confié donc une mission en Amérique du Sud. Il avait alors seulement 23 ans. Et ce grand voyage a duré presque 8 ans. Alcide d'Orbigny a traversé les Antilles, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Brésil, l'Uruguay, qui n'existait pas à l'époque, et l'Argentine, le Chili, le Pérou et enfin la Bolivie. Pendant son voyage, il a collecté, observé et décrit des espèces dans tous les domaines de la zoologie, aussi bien des invertébrés que des vertébrés, de la botanique, de l'anthropologie et de l'ethnologie. Tous les objets qu'il rassemble sont ensuite expédiés directement au muséum. Les collections qu'il a rapportées sont composées de 9000 espèces d'animaux et de plantes, dont de nombreuses nouvelles espèces qui n'avaient jamais été décrites auparavant.
Effectivement, il a l'air d'avoir bien bossé, Alcide. Ça devait être un chouette voyage, finalement.
Ah bah, c'était pas de tout repos. Hein. J'ai lu le récit de ce voyage dans un livre biographique écrit par Françoise Legré-Zedlin. Et ce que j'ai aimé, moi, c'est vraiment découvrir tous les à côté de la science. Alors, au cours de ce périple, Alcide d'Orbigny a parcouru des milliers de kilomètres avec les moyens du bord. À pied, à cheval, à dos d'âne, en pirogue, en bateau et parfois au péril de sa vie. Il a dû faire face aux pirates, aux Amérindiens en révolte, aux bêtes sauvages, à des conditions météorologiques extrêmes, comme on vient d'en parler, au mal d'altitude, à la maladie. Et également, il a souffert de l'instabilité politique de cette période. À chaque fois ou presque qu'il arrivait dans un pays, celui-ci entrait en révolution contre les colonisateurs. Alors, je pense pas que c'est à cause de lui, hein, mais on sait jamais. À un moment, il a même été emprisonné quelque temps à Montevideo, en Uruguay, parce qu'il a été pris pour un espion. Alors, dans ce livre, il est également mentionné qu'il est un ami des Noirs, ce qui va pas forcément de soi à une époque où on remettait en cause le fait que l'espèce humaine est unique. D'Orbigny, lui, il a déclaré d'emblée sa conviction intime que parmi les hommes, il n'y a qu'une seule et même espèce. En fervent défenseur des droits de l'homme, il réclamait pour les autochtones le droit au respect, à l'éducation et à la santé. Il a dénoncé avec vigueur les traitements des peuples natifs qui étaient réduits aux corvées les plus dégradantes. Et il était scandalisé en particulier par la condition des femmes natives qui étaient souvent réduites à l'état d'esclaves. Par ailleurs, il déplore également l'éducation des demoiselles de la bonne société. Je cite, « On néglige même de leur apprendre à penser et réfléchir ». Il pensait qu'on devait leur enseigner, comme au jeune homme, les lettres et les sciences. Et c'est d'autant plus remarquable qu'il était super jeune et qu'il vivait dans une époque où le machisme était de règle.
Alors antiraciste, féministe, même si c'est un peu trop tôt pour parler de, avec ce terme-là, je commence à comprendre un petit peu pourquoi c'est ton préféré.
Et oui, bah, ça s'arrête pas là, parce qu'il avait en effet une vision globale des relations entre la biosphère, donc les organismes, et la géosphère, la Terre. Il était convaincu de l'intérêt des liens entre les différentes disciplines. Et on peut même dire qu'il était un peu écolo. Donc dans le récit, on voit qu'il prélève le nombre minimum d'animaux pour les empailler et les envoyer au muséum. Et puis ça le chagrine vraiment de faire ça. Il déplorait également la chasse à la vigogne, c'est un genre d'alpaga, que les chasseurs tuaient pour les écorcher, alors que les Incas, eux, étaient plus prévoyants et se contentaient de tondre les animaux pour en récupérer simplement la laine. En Bolivie, il a même proposé au président Santa Cruz un certain nombre de réformes qui touchaient au développement industriel et agricole et aussi à la gestion raisonnée des ressources naturelles. Une fois qu'il a été de retour en France, il a passé 13 années à rédiger ses mémoires. 11 volumes, presque 5000 pages et plus de 500 planches d'illustration. Cette œuvre magistrale en fait l'une des plus importantes jamais réalisées d'une région du monde et a ainsi contribué fortement à l'amélioration des connaissances naturalistes de l'Amérique du Sud. Son concurrent, hein, on peut dire, de l'époque, Charles Darwin, a lui-même jugé l'œuvre, je cite, comme un monument de la science du 19e siècle, rien que ça. Au passage, il a décrit pas moins de 9 étages géologiques qui sont encore aujourd'hui reconnus. Les étages, c'est une des plus fines subdivisions de l'échelle des temps géologiques. Tout au long de sa vie, il a recensé plus de 1500 espèces de foraminifères, donc les petites coquilles dont je vous parlais au début, et donc pour la plupart des nouvelles espèces. Il est ainsi considéré comme l'inventeur de la micropaléontologie. C'est une science qui a aujourd'hui de nombreuses applications. L'étude des microfossiles permet de dater les roches, de reconstituer les climats, les environnements passés, de faire du suivi environnemental et même, j'ai appris, en archéologie pour reconstituer certaines activités humaines. Son travail ethnologique est encore aujourd'hui reconnu. Avant lui, on s'intéressait surtout aux caractéristiques physiques des différents peuples humains. Mais lui, il a ajouté à ça des considérations anthropologiques, linguistiques et statistiques. Enfin, pour terminer, je citerai un de ses biographes. Il serait facile de sélectionner dans la liste des travaux d'Alcide d'Orbigny une demi-douzaine dont chacune d'entre elles constituerait à elle seule le travail de la vie d'un homme ordinaire.
Merci beaucoup Aurore pour ce portrait impressionnant d'Alcide d'Orbigny. Si vous voulez en savoir plus, on trouve de nombreuses sources et on vous recommande en particulier l'article Alcide d'Orbigny 1802-1857, sa vie, son œuvre de Marie-Thérèse Venec-Perret dans Compte-rendu Palais-Vol en 2002 ou encore le livre Alcide Dessalines d'Orbigny de Françoise Légré-Zedline disponible à la médiathèque de Nantes. On écoute Snowdrop de Fête Date et on revient juste après parler expédition scientifique.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
C'était Snowdrop de Fat Dat et nous sommes de retour en plateau avec Agnès Balzer et Simon Rondeau pour parler expédition scientifique, aventure, science et environnement. Car partir en mission scientifique, c'est se confronter à la réalité du terrain. On en a parlé en première partie. Ces paysages qui changent, la glace qui disparaît, les températures qui montent. Impossible donc de ne pas aborder le sujet terrible du changement climatique et aussi de vos sujets de recherche, puisque c'est souvent intimement lié. On va commencer avec un exemple parlant. Simon, quand tu as participé à la campagne océanographique Apéro l'année dernière, tu as parlé tout à l'heure des tempêtes, mais également une canicule sous-marine, c'est ça ?
Oui, tout à fait. À l'époque, je crois, si je me souviens bien, on avait une anomalie de température en Atlantique Nord de 6 degrés. Donc c'est
pas
assez énorme.
2, 3 degrés, quoi.
Et c'était l'une des premières fois où il y avait une canicule sous-marine qui était aussi grande et dans l'espace et dans le temps, parce que l'anomalie est quand même restée, je crois, quasiment durant plus d'un an. Et nous, on se retrouve au milieu de ça. Et c'était très étrange parce que l'océan s'embrasait devant nous, mais vu de l'extérieur, en fait, on avait l'impression qu'il y avait rien qui changeait. En fait, on était sur place, c'est-à-dire qu'on voyait que ça commençait à être très médiatisé, que tout le monde en parlait, et du coup, c'est très étrange parce que moi, il y a beaucoup d'images que j'ai fait à bord de coucher de soleil, de paysages sous-marins. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point ce nouveau genre de catastrophe naturelle, en fait, est complètement invisible. Et en fait, j'ai envie de dire, même si on met le doigt dans l'eau, hein, parce que 6 degrés de plus dans l'Atlantique à l'époque où on y allait, je suis pas sûr qu'on les sentait, qu'on l'aurait senti quand même. C'était assez étrange et c'était assez aussi symbolique sur une campagne qui s'intéresse à la captation du carbone par l'océan, évidemment dans un contexte climatique. C'était assez symbolique là de nous retrouver au milieu du chaudron d'une certaine manière, quoi.
Donc toi, il y avait cette catastrophe en cours, mais d'extérieur on ne voyait rien. Agnès, tout à l'heure tu parlais des changements que chaque année ou tous les deux ans tu peux voir vraiment très concrètement.
En fait, tu vois là, ce que tu dis là, on voit pas le changement parce qu'il y a pas de bruit. En fait, c'est un espèce de grand changement silencieux, mais qui continue, qui fait pas de bruit. Et moi, ce que je te racontais là pour Longyearbyen, c'est parce que tu le vois, il te saute aux yeux. L'océan qui se réchauffe là, effectivement, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. En plus, t'as plein de boucles de rétroaction, c'est-à-dire il se réchauffe, donc il capte moins le CO2, donc ça en laisse plus là-haut, donc ça réchauffe encore plus vite. Enfin, c'est plein de grands systèmes de boucles qu'on est en train de mettre en évidence, et c'est vrai que c'est impressionnant. Et c'est partout. C'est surtout ça aussi. Et ça crie pas, mais ça continue.
Et tu m'avais parlé d'ailleurs d'un exemple avec les ours blancs dont leur comportement a changé plusieurs fois depuis 2009.
Tu aimais bien cet exemple-là.
Oui, j'aimais bien cet exemple-là.
Donc
il
là,
est très parlant, je trouve.
C'est les masses d'eau qui ont changé, qui sont en train de changer puisque les températures changent. Et donc les masses d'eau, suivant leur température, elles vont avoir une densité plus ou moins forte. Et donc là maintenant, on a une masse d'eau nord-atlantique qui rentre dans les fjords du Spitzberg, fjord ouest, et donc qui empêche la banquise de se former. Elle est un peu trop chaude et donc la banquise, elle peut plus s'installer pendant tout l'hiver. Et c'est là que intervient les ours blancs qui, eux, c'est le pays des ours blancs, hein, l'Arctique, c'est Arctos, les ours blancs. Et donc, c'est le pays des ours blancs, il y en a plus que des hommes. Et là, il s'est arrivé que comme il n'y a plus de banquise pendant l'hiver sur les fjords, au lieu de creuser, d'attendre que le phoque arrive en respirant à l'endroit où il a son petit trou d'aération, sachant que l'ours blanc se met derrière son gros nez noir et attend juste que le phoque saute. Et comme il n'y a plus de banquise, il ne peut plus faire ça. Donc il ne peut plus tranquillement chasser mollement le phoque. Il a faim, donc il cherche d'autres façons. Et la chose qu'il a trouvée à manger, sachant qu'il y a trois autres animaux avec lui, il y a les oiseaux, il y a les rennes et il y a les petits renards arctiques très très jolis. Et sauf qu'un ours c'est 800 kilos en gros et c'est une masse énorme à bouger. Donc il faut pas qu'il perde trop d'énergie à bouger. Autrement, il faut qu'il mange beaucoup pour compenser ça. Et c'est vrai que le phoque c'était top pour lui, c'est plein de graisse, c'est très très riche, donc et sans aucun effort il en avait. Et donc là il a trouvé la seule chose qu'il peut prendre, ce sont les œufs des oiseaux. Les oiseaux, ça vole, donc ils volent très mal, hein, l'ours blanc, c'est clair. Le petit renard arctique va beaucoup plus vite que lui, et le renne va aussi plus vite que lui à terre. Donc il a commencé à manger les œufs des oiseaux. Parce que c'est riche, ça demande pas d'énergie, et là, en 200 œufs, tu te fais une omelette et c'est bon, l'œuf, il va mieux dans la journée, quoi. Sauf que là, c'est les oiseaux qui sont pas contents. Et eux, ça a fait des coupes sombres dans leurs effectifs, évidemment. Et donc là, ça a mis 2 ans. On a vu 2 ans pour que les ours comprennent que, tiens, je peux manger des œufs. 2 ans pour que les oiseaux ils disent, oh putain, il y en a marre de se faire manger nos œufs, on va faire autre chose. Donc on va nicher ailleurs. Donc à chaque fois, shift comme ça. Et donc là, le dernier shift donc d'ours blanc, oh ben zut, il n'y a plus d'œufs à manger. Qu'est-ce que je fais? Je m'adapte. Et là, il a réussi. Donc les petits renards, c'est toujours pas possible. Mais par contre, les rennes, il commence à les rabattre dans l'eau. Parce qu'il ne peut pas courir après. Le renne, il va plus vite que lui sur un plus long temps. Et donc là, ils ont trouvé une technique qui permet de rabattre le renne dans le fjord. Et là, il prend le renne. Et
parce
là,
que
c'est
le renne nage.
Et donc là, on a hâte de voir. Enfin, il suffirait que j'envoie un petit mail à mes collègues là pour savoir si on va voir maintenant des rennes super sportives qui courent très très vite. Ou alors, voilà, on attend de voir comment une nouvelle fois. Et c'est là où c'est vraiment impressionnant et c'est une leçon de vie pour nous tous. Hein. C'est eux, ils mettent à peu près 2 ans pour s'adapter à des nouvelles conditions. Donc pourquoi pas nous, hein, c'est quand même ça le challenge. Allez, chacun à nous de trouver des nouvelles solutions pour s'adapter.
Est-ce que ça change toutes ces conséquences du dérèglement climatique sont plus visibles dans le nord ou sous l'eau? Et après, on a les conséquences qui arrivent, nous, en France? Ou est-ce que ça change de façon à peu près uniforme partout?
Alors, ça a commencé beaucoup plus tôt là, en Arctique. Hein. On a pris 4 degrés entre 1990 et 2015-2017. Ça allait très, très vite parce que l'Arctique est fait différemment. C'est un océan entouré de terre. Et donc, ça allait beaucoup plus vite. Donc, les changements sont très, très vite. Mais ils sont connectés. La Terre, elle est connectée partout. Donc, évidemment, les changements, on les voit petit à petit venir. À partir du moment où les masses d'eau, elles changent, bah, elles vont changer partout. Hein. On est sur une Terre super connectée, justement. Et l'Antarctique commence à bouger. Ça y est. Donc là, voilà, on va voir maintenant l'effet de l'Antarctique. Et voilà, ça va petit à petit aller partout.
Il y a un paradoxe, puisqu'on parle d'expédition scientifique, donc de gros bateaux, donc de dépenses carbone. Et en même temps, tout ça, c'est pour étudier justement les conséquences du changement climatique et mieux comprendre le mécanisme, par exemple, de l'absorption du carbone ou de la fonte des glaces. Est-ce que quand vous êtes en expédition, quand vous êtes sur ces bateaux et que vous faites ces recherches, vous n'avez pas quand même une petite voix qui dit « je participe aussi à tout ça » ?
Moi, je peux répondre là-dessus. Faut savoir que actuellement, il y a des grosses réflexions. Hein. C'est-à-dire que les scientifiques sont bien conscients de leur bilan carbone. C'est des calculs qui sont faits. Nous, sur Apéro, par exemple, je crois que par personne, on a consommé sur 40 jours quasiment, on va dire, autant que 20 personnes sur un an. Donc quand
20
on
français.
Que 20 français moyens donc en fait oui parce qu'en fait les bateaux notamment ont des carburants qui sont polluants, c'est surtout ça d'ailleurs. Mais par rapport à d'autres secteurs ça reste quand même très moindre. Donc oui, c'est quelque chose qui est pris en compte et de plus en plus d'ailleurs parce qu'il y a en ce moment il y a des discussions sur le renouveau de la flotte océanographique pour s'inspirer notamment de Tara, d'autres expéditions en voilier, de réfléchir à d'autres manières avec des bateaux à voile de partir en mer. Ça apporte des contraintes parce que sur un bateau à voile, on peut pas amener autant de matériel que sur un bateau, par exemple, comme le Pourquoi Pas, qui est vraiment un immeuble, hein, globalement, avec à peu près 11 étages. Et puis, moi, je dirais qu'en tant que vidéaste, la question que je me pose aussi, c'est mon propre bilan carbone à moi. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout à chasser les expéditions et à vouloir partir vraiment tous les 6 mois. Au contraire, moi, j'essaie justement d'utiliser ce crédit carbone que j'ai quand j'embarque le mieux possible. Et c'est par exemple partir en mer, mais travailler avec les scientifiques sur 2 ans, 3 ans, sur vraiment du long terme, avec toutes les images qu'on va rapporter pour, entre guillemets, ne pas juste faire le touriste à chaque fois qui va juste prendre des images et qui fait que ça, mais vraiment, au contraire, partir moins souvent, mais pour faire des choses mieux et plus qualitatives, plutôt que privilégier la quantité.
Et pour rebondir, effectivement, tous les scientifiques se la posent, hein, cette question, ça fait partie des gros débats. Alors, Arctique, Antarctique, les gens ne sont pas forcément ouverts ou fermés de la même façon. Et par contre, justement, là, on est en train vraiment de réfléchir, comme tu disais, à y aller peut-être moins souvent, mais mieux. Une fois, tu y vas et là, tu fais à fond plein de choses et tout et tout. Et les voiliers, nous, on l'a fait une fois en voilier, hein, justement, on est monté en Arctique en voilier. C'est moins confortable. Mais on est très libre, c'est-à-dire que tu bosses quand tu veux. Quand tu vas en Arctique, il fait jour tout le temps, donc tu vois, on a pu bosser nous à des heures pendant la nuit. Il faisait jour en fait, et donc là, t'avais plus d'eau, enfin plus d'eau aussi, mais plus de vent, et c'était nickel, et donc tu pouvais vraiment travailler aux conditions que tu voulais. Donc il y avait une liberté qui était assez incroyable. Par contre, ça veut dire qu'il faut que tu cibles quel bateau tu prends et quel matos tu prends. Et tu peux pas le faire avec n'importe quoi. Par contre, on est en train de voir si on peut pas imaginer d'organiser, tu vois, comme un blabla voilier pour ceux qui ont besoin d'aller là-haut. Et sur tel temps, parce que en fait, mine de rien, t'as quand même aussi plein de voiliers qui maintenant peuvent y aller, puisque t'as beaucoup moins de glaçons, t'as moins de banquistes, t'as moins. Et donc là, il y aurait peut-être moyen, tu vois, de.
Mais un covoiturage de voiliers.
Voilà, blabla voilier, enfin,
un blabla voilier.
Voile voilier.
Pour mutualiser un petit peu les moyens et faire en sorte que quand on y va, on y va pour de vrai, quoi.
Exactement. Et quand tu y vas et que tu es sur un voilier, tu sens encore mieux comment c'est l'environnement. Hein. C'est toujours pareil, tu vois mieux le vent. Tu sens dans ta chair à quoi ça ressemble ce type d'environnement et tu apprends beaucoup de choses en fait aussi.
Donc la relation avec le terrain est encore plus forte.
Exactement.
J'imagine de toute façon que ces missions océanographiques, elles sont là pour faire de la recherche scientifique qui ensuite est là pour essayer d'apporter des réponses à toutes ces tragédies climatiques qui nous entourent. J'imagine aussi que quand on part, eh ben, le but est de collecter les données, mais qu'ensuite il faut les traiter et tout ça, ça se fait une fois de retour. Est-ce que vous êtes encore en train, alors Simon, t'as parlé déjà des images, mais de gérer un peu tout ce que vous avez accumulé à votre dernière expédition scientifique et que vous êtes en train encore de digérer tout ça et d'en tirer des leçons.
La dernière qu'on a faite en Arctique, là, on est encore en train de compter les foraminifères, les gnagnas et tout ça. Parce que ça dure très très longtemps, hein. Tu ramènes beaucoup d'échantillons. Et là, on a des foraminifères qui sont en train d'étudier, ben, à Angers, justement, les collègues d'Angers, les collègues en Italie. Donc, tu vois, on essaye pour avancer vite parce que c'est un travail de titan, hein, ces choses-là. Par contre, les données, c'est super intéressant. C'est en train de donner des trucs qui sont très, très chouettes. Et après, tu peux les retravailler. Tu peux toujours regarder celle-là. Et si tu en rajoutes deux autres, hop, ça te donne une évolution. C'est vraiment extraordinaire.
Moi, un truc qui m'a beaucoup plu dans Apéro, c'est que j'ai pu aussi documenter l'après-campagne. C'est-à-dire que je suis parti là 40 jours sur le bateau et j'ai eu l'occasion de revenir dans différents labos en octobre dernier, en mars aussi, pour voir un petit peu, exemple, il y avait un échantillon rempli de plancton qui ressemblait un petit peu à des cloportes, mais vraiment genre la bouteille, elle était vraiment remplie à ras bord et en fait j'ai revu cet échantillon mais traité dans une machine à Villefranche-sur-Mer à côté de Nice. Et là, il y a pas longtemps aussi, juste avant les vacances d'été, j'ai pu aller pour faire des images à la première réunion post-campagne. Donc c'est là où tous les scientifiques du bateau se retrouvent pour justement mettre en commun les premiers résultats, voir là où ils peuvent travailler ensemble pour, comme tu disais en fait, créer de nouveaux résultats. Parce que quand on passe dans des choses multidisciplinaires, on complexifie aussi la pensée, la réflexion, les mesures. Mais du coup, ça apporte aussi de nouvelles choses. Donc oui, en fait, c'est il y a je pense énormément d'années en fait où je pense qu'il va y avoir de la science qui va se faire et donc aussi des histoires à raconter.
Comme Alcide d'Orbigny dont on parlait tout à l'heure, qui a mis des années pour pouvoir mettre au propre ses recherches et ses grandes expéditions. Si elles vous font rêver, chers auditeurs, auditrices, sachez qu'elles me font rêver aussi et que vous n'êtes pas les seuls. De grands auteurs et autrices se sont inspirés de tout ça avant nous pour écrire des récits d'aventure et ça ne manque pas. Lila, les romans d'aventure, c'est un peu ton péché mignon.
Oui, totalement. Alors, quand j'étais petite déjà, j'étais fascinée par les romans d'aventure et de monde perdu. Cette passion, ça n'a fait que croître avec l'âge, et ça a grandement contribué à mon amour de l'horreur et de la SF. Le fait d'expliquer l'inexplicable, découvrir des mondes inconnus, passer des heures à décrypter un bouquin écrit spécialement pour ne pas être compris. Oui, je parle de toi, la maison des feuilles. Nom de Dieu, quel bonheur. Je profite donc de cette chronique pour parler de mon amour pour les romans d'exploration. Surtout que ça a été écrit notamment à des époques où on avait pas toutes les infos qu'on a maintenant. Du coup, c'était surtout imaginatif. Donc, comment ne pas évoquer le maître du genre Jules Verne en personne, Voyage au centre de la Terre, qui m'a fait faire des nuits blanches tant que je voulais connaître la suite. Je m'imaginais explorer des souterrains en costume trois pièces et tomber sur des créatures censées avoir disparu depuis des siècles. Un peu décevant de savoir que maintenant, dans la réalité, j'aurais fondu avant d'avoir atteint la moitié du trajet. Plutôt que les souterrains, c'est un peu l'exploration marine et les gros robots qui me font kiffer. Donc 20 milieux sous les mers et ces très très nombreuses adaptations au cinéma, ça m'a fait kiffer mais toute mon enfance et toute mon adolescence. Au-delà du fait qu'encore aujourd'hui je fais des théories sur quelles créatures préhistoriques se cacheraient dans les profondeurs sous-marines, c'est littéralement incroyable de se dire que le Nautilus, donc le vaisseau du capitaine Nemo, pour ceux qui n'ont pas la ref, est extrêmement réaliste et plutôt bien pensé, en fait. Donc déjà, j'aimerais remercier mon gars sûr, Arthur, plus connu sous le nom de Rigel Oniric sur Instagram, qui est un artiste de fou, qui a dessiné en détail les plans du Nautilus pour le fun, et qui m'a permis de constater à quel point ce vaisseau est une petite merveille d'ingénierie pour l'époque, où il a été imaginé. Donc Jules Verne a évidemment oublié de 3-4 trucs, hein, donc que même lui ne pouvait pas forcément savoir, genre les changements de palier et la pression de l'eau, mais sinon, bah tout y est, quoi. Le mec a théorisé une version de luxe des sous-marins actuels avec presque 80% de bonnes réponses. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'une série française sur le Nautilus est sortie sur France TV et que même si on s'éloigne pas mal du matériel de base, bah, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Comment parler d'exploration scientifique sans parler du deuxième bouquin le plus connu d'Arthur Conan Doyle, et là je suis très très fan, Le Monde Perdu. En termes d'exploration scientifique, bon, il n'y a pas mieux, c'est littéralement un professeur fou et son protégé qui vont chercher à des dinosaures dans une grotte. Donc premier volet de la série des aventures du professeur Challenger, qui comprend 5 romans en tout, ça je ne le savais pas, mais c'est une saga en fait. Donc c'est une version un peu plus romancée, un peu plus imaginative du voyage au centre de la Terre, où on bascule du roman d'exploration pure à celui d'aventure fantastique, donc avec des personnages à l'identité très travaillée et soignée. Donc le colérique professeur George Challenger, qui a lancé la mode du scientifique misanthrope qui cherche dans la fiction. Le narrateur est le jeune journaliste Edward Malone, qui cherche à prouver que sa fiancée Gladys que c'est un homme alpha. Sur ce point, c'est raté d'ailleurs. Le chasseur Lord Roxton, la force brute qui, comme tout bon colon qui se respecte, veut buter des espèces qui sont déjà disparues. Et enfin, le professeur Summerly, qui est le confrère et rival du professeur Challenger, qui vit pour les caméras. Et ensuite, tout ce petit monde, en fait, ça a lancé la frénésie pour les romans d'aventure et un peu à placer les codes de personnages de romans d'aventure, avec le professeur colérique, le petit protégé qui n'y connaît rien mais qui est trop fasciné et qui adore ce qui se passe, la force brute qui est souvent un chasseur, et le rival qui est là pour être chiant, notamment. Forcément, Arthur Conan Doyle serait peut-être flatté d'apprendre que son travail a inspiré des films comme King Kong ou Jurassic Park. Tout ça pour dire que moi aussi je rêve d'accompagner un professeur fou dans une grotte pour découvrir des créatures géantes. Peut-être que je suis un gros jaloux en fait.
Merci Lila pour cette chronique. Peut-être que tu peux te faire recruter pour accompagner lors d'une prochaine expédition scientifique.
J'ai une anecdote là-dessus. Moi, j'ai lu 20 milieux sous les mers, sur apéro.
Trop cool.
L'expérience était vraiment folle.
Qu'est-ce que ça fait de vivre mon rêve finalement?
Eh ben, c'était super. Et d'ailleurs, c'était à la base le rêve d'un de mes amis qui m'a offert le livre en disant voilà, tu vas réaliser mon rêve par procuration. Et pareil, quand j'étais en mer Noire, j'avais lu dans un tout autre registre du Lovecraft, Le cauchemar d'Innsmouth, alors qu'il y avait le Covid à bord. C'était vraiment, c'était vraiment des ambiances particulières. Et en fait, ces expéditions, c'est tellement fort en émotion que je trouve ça aussi hyper intéressant de mêler à des univers fictifs directement sur place, ça c'est fou.
Et toutes les références de ces ouvrages dont on vient de parler notamment sont à retrouver sur le site du Labo des Savoirs. Alors avant de conclure cette émission, je me tourne à nouveau vers donc nos invités, puisque nous enregistrons cette émission en public à l'occasion de la fête de la science. Ce public, vous ne le voyez pas pendant vos expéditions scientifiques, mais vous le voyez bien en retour à l'occasion de festivals, de conférences ou d'émissions du Labo des Savoirs, par exemple. Pour parler de science et pour parler de ces aventures qui, j'imagine, sont indescriptibles quand vous les avez vécues dans votre chair, il y a plusieurs moyens et je sais que vous utilisez des médias plutôt artistiques, que ce soit du jeu, du dessin, de l'aquarelle, de la vidéo. Est-ce qu'il faut être nécessairement créatif quand on est un explorateur, un scientifique? Est-ce que ça aide à faire passer un message?
Et effectivement, pour témoigner de ce qui nous arrive, alors moi je suis pas du tout artiste ni rien, si je prends des photos, mais à part ça, mais d'emmener des artistes avec nous qui vont justement s'imprégner de ce qui se passe, ce que tu as fait, toi, ça me semble hyper important pour être capable de témoigner. Parce que moi, ma mère, elle a toujours pas compris ce que je faisais comme métier. J'ai bien essayé d'expliquer 2-3 fois. Et donc, c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui fait des dessins et d'expliquer, ben voilà, on a fait ci, cela, une BD. Moi, j'ai vu les premières BD du Marion, là. Il y en a 2 qui ont été faites, là, sur le Marion Dufresne, avec, je sais plus comment il s'appelle. Bon, ça me reviendra après. Mais qui raconte vraiment la vie à bord, en fait, d'une mission. Chose que nous, on est incapable de raconter après en étant dedans. Mais toi, tu auras plus d'arguments.
Oui, Simon, toi, tu as cette espèce de mission de raconter la vie à bord et de la rendre accessible.
tous ces côtés paradoxaux, parce que effectivement, ça fait pas longtemps qu'il y a des gens qui sont embarqués à bord des navires pour raconter ce qui s'y passe, puisque en fait, les places à bord, en fait, sont extrêmement précieuses. Moi, quand je suis à bord, je prends la place d'une scientifique. Donc ça fait très peu de temps, effectivement, c'est en train de se développer, mais c'est encore très récent. Et il y a ce paradoxe parce que, et je le comprends aussi tout à fait, parce que même moi, je l'ai ressenti pendant très longtemps, en fait, c'était tellement intense, c'était tellement aussi intime ce qui se passe en mer, que la caméra peut très vite être perçue comme intrusive. Et en fait, moi, une énorme partie de mon travail à bord, c'est du travail social, en fait. C'est gagner la confiance des gens. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien aussi, ça c'est arrivé. En fait, je trouve ça très compliqué de, en fait, raconter de manière très froide ce qu'on fait. Pourquoi on est là? À quoi sert l'instrument? Quelle recherche on mène? Ça, c'est très facile. Mais raconter toute la complexité des émotions par lesquelles on passe, tous les moments de joie, de doute, de tristesse qu'on par lesquels on peut passer en mer, parce que c'est vraiment extrêmement intense. En fait, c'est compliqué à raconter, surtout en tant que groupe. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie justement que ça soit raconté, qui ont envie de garder ça pour eux. Moi, par exemple, j'ai fait un petit film de voyage de campagne à la fin, avec dans lequel j'ai mis des blagues de tout ce qui s'est passé en fait dans l'aventure. Et ça, c'est vraiment, mais comme quand on part en vacances en groupe d'amis, on a peut-être pas forcément envie que tout soit raconté, disséqué sur la place publique pour en faire de la communication ou de la valorisation. Moi, je suis encore en train d'apprendre ça. Comment avoir ce juste milieu. J'ai réussi à capturer par exemple des très beaux moments où il y avait des scientifiques qui étaient en train de nettoyer plein d'instruments dehors en blouse blanche en pleine nuit, et on s'est amusé en fait à les filmer et à mettre la musique de Ghostbusters par-dessus, parce qu'il y en avait certains qui avaient les trucs à pesticides, la Jardiland là, pour nettoyer avec les chip-sheet, et franchement c'était incroyable. Il y a un moment aussi où j'étais dans un laboratoire et j'ai un ami, mais qui est aussi un de mes anciens professeurs et qui travaille à la station de Villefranche, je suis un mec qui me met un plancton gélatineux dans le cou au moment où je suis en train de filmer. Donc en fait, il y a vraiment des moments très particuliers, très intimes, et en fait il y en a plein d'autres. Mais comment est-ce qu'on capture ça? Comment est-ce qu'on a l'autorisation? Comment est-ce qu'on gagne la confiance aussi? Parce que j'imagine que quand on est sur une BD, c'est différent, parce que on peut vraiment retravailler le dessin, c'est composer ça. L'histoire différemment. Mais quand on filme, c'est brut. Et donc en fait, jouer moi en tant que communicant à bord, avec aussi toutes ces contraintes là, et trouver le juste équilibre, c'est un vrai métier, et moi je suis encore en train de me former là-dessus.
Et ça y est, ça vient de revenir, c'est Emmanuel Lepage là qui a fait au moins 2 BD là,
Le Marion Dufresne,
Le Marion Dufresne, et il arrive vraiment à retracer ce qui se passe sans être exactement comme tu dis, hein. Il fait des dessins, donc il peut couper, mais on a une vision de ce qui se passe quand même, et c'est vraiment chouette, hein.
Merci à Agnès Balzer et à Simon Rondeau d'avoir répondu à mes questions à l'occasion de cette émission spéciale Fête de la Science. Merci au Pôle étudiant de Nantes Université pour leur accueil. Merci également à Aurore et à Lila pour leur superbe chronique. Une émission préparée par Sophie Potvin, réalisée par Dunia 16, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodesavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et on se dit comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Her name is Monica. She lives by the sea. She's a little crazy.